Sur, bah sur trois films qui sont sortis sur l'été. Alors on a beau chercher des films asiatiques sur juillet et août, en sortant des DVD, il n'y a rien du tout. Pourtant la culture asiatique était présente un peu partout, et notamment dans Pacific Rim, dans Wolverine, dans Metro Manila, qui est un... Bon, tu fais une grimace, mais Metro Manila, c'est un film britannique quand même.
Ah non, je vois
C'est...
pour Metro Manila, je repensais aux 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, qui est
Ah
quand
oui,
même
ouais, dans
une,
leur
bon, des
sortie.
versions restaurées, on peut rajouter aussi les Ozu qui sont très bien, quoi. Donc c'est des ressorties, mais bon, c'était quand même agréable de les revoir en version restaurée sur grand écran, quoi.
Oui, bah après au niveau des nouveautés, pour le
Ah
coup,
c'est vrai
faut
qu'il y a, ouais.
attendre la rentrée,
Voilà,
Hilo
ouais.
Hilo,
Bon, il y aura beaucoup de
The
choses en
Legend.
septembre, octobre, novembre, mais par contre, il y aura beaucoup de sorties asiatiques, il y aura beaucoup de travail pour nous.
Ouais, et c'est la première fois, je crois. Enfin, j'ai regardé un peu l'année dernière, il y avait quand même quelques sorties. Enfin, il y a The Raid qui était sorti. C'était il y a 2 ans, The Raid
Ouais,
déjà.
c'était il y a 2 ans, ouais.
Ok, bon bah il y a 2 ans, il y avait quelques sorties, asiatiques. J'ai rencontré le diable, c'était il y a 3 ans donc pour le coup. Ok, The Chaser, c'était l'été où il y avait les deux films coréens.
Voilà.
Donc bon, en tout cas, cette année l'Asie était présente dans les salles, mais pas au niveau des productions. Et donc il y avait Pacific Rim. Alors pour le coup, Pacific Rim, c'est une production américaine d'un cinéaste mexicain qui rend hommage au cinéma japonais dans un film se passant à Hong Kong. En gros, l'histoire, dans un futur proche, il y a Évangélion qui rencontre Godzilla.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est un résumé comme ça. Et avant de vous laisser la parole, je veux juste dire que c'est une splendeur visuelle et que c'est un émerveillement de tous les instants et que finalement, on n'a pas besoin de scénario ni de... Voilà, on a des scènes
Il
iconiques
anticipe déjà ce qu'on va dire, tout ça.
et
C'est lui
ça
qui tient le
suffit.
micro, de toute façon.
Bah oui. Yannick, tu l'as pas vu pour le coup,
Ah, je pense que
mais...
ça te plaira, Yannick, hein. Franchement.
Non, j'en doute pas,
Moi, je
mais
pense
j'ai
que
pas pu le
Yannick aura,
voir.
ouais. Ah, je trouve inégal, tu vois. Visuellement, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment superbe. Alors, par contre, vive l'anxiété du scénario, comment c'est prévisible. Les deux scientifiques sont lourdingues, mais ça, c'est bon, c'est classique,
Ça
on va
c'est
dire.
l'humour de Guillermo del Toro, quoi. Enfin,
Voilà,
lui,
mais c'est
c'est
vraiment,
pas...
enfin,
L'humour est
vraiment
lourdingue, quoi. Ouais.
détestable. Enfin, vraiment, pour moi, c'est complètement bancal. Et pour moi, on parlait de Grandmaster, qui est un grand film raté. Ben, je trouve que là, c'est un peu la même chose, mais dans un autre genre. Alors que visuellement, l'univers est vraiment énorme. Il faut absolument le voir sur grand écran. Mais alors, par contre, au niveau du scénario, mais c'est vraiment. Enfin, si on voit pour la première fois un blockbuster, on trouve que c'est un chef-d'œuvre. Par contre, on en a tellement vu, nous, que finalement, on considère vraiment comme bah, vraiment très très moyen au niveau du scénario, au niveau du fond, quoi.
Ouais, mais enfin, c'est un film qui a une âme, je trouve, pour le coup, et c'est rare dans un blockbuster. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le créateur derrière, on sent sa patte au niveau des effets visuels. C'est pas juste des effets visuels, et effectivement, il faut le voir sur grand écran, mais on sent que chaque monstre a été pensé de manière presque artisanale pour donner en effet. Et dans tous ces petites choses, c'est quand même quelque chose qui est assez touchant de voir vraiment bah, Guillermo del Toro faire son film de gosse, voilà, sur grand écran, et il y a ouais, quelque chose d'assez étonnant justement par rapport aux blockbusters et aux autres blockbusters qu'on a vus, qui sont généralement très lisses, très aseptisés, et où on sent aucune voilà, aucune patte et aucune âme. Ça change quand même pas mal, quoi. Enfin bon, cet été on a eu Man of Steel et je sais pas, World War Z, qui sont à mon sens l'exact opposé de Pacific Rim, quoi, pour le coup.
Moi, ce qui m'a poussé à regarder Pacific Rim et pas les autres, par exemple. Parce que justement, celui-là, on m'a dit. Enfin, je lisais, ouais, il s'est complètement lâché, le réalisateur, quoi. Mais je me demande si, quand même, il a pas eu une certaine pression au niveau du scénario, tu vois, qui était
Ah
vraiment
non,
trop.
il a fait des coupes. Hein. Enfin, il y a plein de trucs qui sont juste
Voilà.
évoqués en surface parce que tu sens les producteurs derrière qui ont fait des coupes. Mais bon, bah ton, enfin voilà, il y a par exemple l'histoire de qui reprend un peu le plan de complémentarité de l'homme qu'on retrouve dans Évangélion, qui sont que deux cerveaux doivent fusionner et les souvenirs doivent fusionner pour contrôler un méca. Et ça, on sent que ça pourrait être vraiment développé, et notamment dans la fusion. Il y a l'histoire d'un fusion avec un kaiju. Donc on sent que ça pourrait être développé, c'est des petites idées comme ça, et on sent le producteur derrière qui lui dit, bon, c'est
C'est
sympa comme
lâché, mais
idée,
pas totalement, c'est
mais
dommage.
bon là faut faire 2 minutes parce que sinon les gens ils vont plus rien capter et ils vont lâcher, c'est beaucoup trop étrange, quoi. Jérémy, toi, ton ressenti sur le film, c'est...
Bah, je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un film touchant parce que voilà, on sent que Del Toro, comme d'habitude, il est là en artisan, en train de faire son film. Il est voilà, il est généreux, il balance des monstres, il y a des combats, etc. Mais on a un peu l'impression de revenir 20 ans en arrière. Moi, malgré moi, j'ai pensé à Roland Emmerich pendant tout le film. J'ai pensé à Independence Day, à la connerie d'Independence Day. Il y a des punchlines toutes les 5 minutes. Idriss Elba, qui est génial, mais qui balance 10 000 punchlines à la seconde avec son fameux grand discours à la fin, on va annuler l'apocalypse et tout, en mode Bill Pullman face à l'armée, etc. Et voilà, comme tu disais Julien, les personnages des deux scientifiques, les sidekicks,
Ah, ils sont
insupportables, mais insupportables.
Ron Perlman, vous en avez pensé
Ron
quoi?
Perlman, son
Ouais.
père, j'adore Ron Perlman, mais là on sent qu'il est là pour faire son petit caméo parce que c'est le pote à Guillermo, quoi, il est là. Et puis en plus, Ron Perlman qui a dit à Guillermo, bon, t'engages mon petit poulain Charlie Hunnam parce que il est avec moi sur Sons of Anarchy, donc il est super cool, voilà, prends-le. En fait, le mec, voilà. C'est Nandif, quoi. Je l'adore. Je
Non, non,
l'adore.
c'est clair.
Je l'adore dans Sons of Anarchy parce que c'est son rôle, parce que c'est Jax Taylor et parce qu'il est super badass. Mais là, il a le charisme de Ben Affleck à ses débuts.
Assez cru, mais c'est bien dit, hein. Faut être
Et
cru, ça.
voilà. Voilà. Les combats avec les kaijus sont monumentaux, quoi. C'est génial. J'ai pris mon pied. Comme dirait le grand Yannick Vanès, le gros plaisir coupable de malade. Mais finalement, bah voilà, à la fin, il m'en reste que du blockbuster années 90, quoi. Voilà.
Ah, mais pour le coup, il y a quand même une poésie qu'on retrouve pas du tout dans les films de Roland Emmerich ou dans les films de
Oui.
Michael Bay de cette
Mais la
époque.
poésie, moi, je l'ai retrouvée que sur une seule scène, c'est la scène du flashback et du
Mince,
souvenir de la.
c'est celle que je voulais évoquer.
Bah voilà,
Et
ouais.
mais qui, enfin, qui est quand
Qui est
même sublime.
superbe. Oui,
C'est
elle
euh...
est, elle est super, elle est superbe. Visuellement, déjà, elle est superbe. Et en
tu, tu
plus.
peux la raconter pour
Bah en
Ah
fait, c'est.
non,
Bah oui, mais.
C'est un peu compliqué,
Bah pour qu'on sache de quoi on parle, quoi.
on est
Bah
bon,
c'est
on
les
peut gagner quand on
réminiscences,
peut.
de la jeune fille qu'on voit comment elle a rencontré
En gros, on plonge vraiment.
dans les
Enfin, il y a
souvenirs
une scène où on plonge
dans les souvenirs
dans les
c'est ça.
souvenirs d'un personnage et où le personnage entre avec un autre personnage qui entre
Voilà.
dans le cerveau
Voilà.
de la fille, dans une scène
Voilà.
qui l'a traumatisée quand elle était
Voilà, exactement.
enfant, et où il y a vraiment une poésie dont Michael Bay et Roland Emmerich
Alors, sont
étaient
incapables.
absolument incapables,
Incapables, c'est
alors que
sûr.
ce soit maintenant ou dans les années
Ouais.
90, hein, enfin on est quand même à un autre niveau
Ouais, mais
de cinéma.
une seule scène, ça sauve pas un film, quoi.
Ouais.
C'est le seul moment où j'ai retrouvé la vraie touche Del Toro, alors que sur un film comme Hellboy 2, par exemple, qui est aussi lourdingue au niveau de l'humour,
Ouais, voir un peu plus
voire un
même.
peu plus
Ouais.
même, mais il y avait cette patte visuelle qui était là pendant tout le film. Pendant tout le film, on traversait les obsessions Del Toro, même si là on les retrouve, mais elles sont tellement engluées dans une sorte de blockbuster idiot, quoi.
J'ai une bonne solution, c'est de faire un blockbuster muet. Comme ça, aucun dialogue, tu regardes qu'avec les yeux. Ça, c'est bien.
Ouais, mais c'est un peu l'idée d'ailleurs. Enfin, le film est
Oui,
purement,
ah,
est purement
il y a
visuel,
un
il y a
peu
deux,
y
trois
a, c'est ça.
punchlines. Voilà, au niveau des scénarios. Par
Bien
contre,
fait ça, mais.
on peut peut-être parler un peu de la représentation de l'Asie et de la culture asiatique dans le film. Vous en avez pensé quoi, justement, du fait que ce soit vraiment un film international avec des éléments. Enfin, ça se passe à Hong Kong. Finalement, c'est pas si important que ça.
Non, pas du tout.
Ah, ouais,
Non,
en fait, c'est pas
non,
du tout
c'est
important.
très référentiel, quoi, tout simplement.
Et après, oui, c'est de la culture japonaise,
Voilà.
vraiment
Non, mais
de Honda
il fait son.
à
Voilà,
Gainax,
il
quoi.
fait son kaiju. Il fait son kaiju Ega, et quand on le voit au début, la scène où on voit les petits pêcheurs avec leurs petits cirés jaunes et qui regardent comme ça, ils font ouais, kaiju, voilà, c'est Honda, quoi. Et il fait ça, il s'amuse pendant tout
Le film y
pendant
est
tout le
dédié
film.
d'ailleurs
Le
pour
film
le coup
est
à
dédié.
Harryhausen
Ouais,
et
voilà.
Honda.
Donc, voilà.
J'aurais bien aimé qu'il remercie Hideaki Anno. C'est le seul truc,
Oui, c'est vrai.
enfin voilà, parce qu'il y a des références et des plans qui viennent d'Évangélion, enfin tout le
Exactement.
temps.
Ah oui,
Et
clairement.
alors autant il remercie ses potes mexicains, Alfonso Cuarón
Voilà.
et Cronenberg aussi. Enfin, j'ai regardé dans les remerciements du générique, mais il oublie quand même Hideaki Anno, et ça c'est un peu dommage parce que sans Évangélion, il y aurait clairement pas Pacific Rim, quoi,
Voilà,
pour le
c'est
coup.
sûr. Mais voilà, c'est un blockbuster geek et j'ai l'impression que voilà, les cinéastes d'aujourd'hui sont avant tout geeks, et les films sont référentiels, et il n'y a pas de fond, quoi. Il y a rarement du fond en ce moment. Il n'y a que
Ouais.
du référentiel ou du. Voilà.
Puis de regarder Kick-Ass 2, bah c'est exactement ça.
Mais
Autant
ouais.
le premier j'avais aimé, mais alors le
Ouais.
deuxième il est vraiment formatisé, enfin il est vraiment mis dans un contexte contemporain, quoi. Vive Twitter, en plus c'est lourdingue de chez lourdingue, quoi. C'est de pire en pire, quoi. Plus t'avances, plus c'est horrible. Et bon, ça c'était une grosse déception par
Voilà, et
contre.
Del Toro, justement, on a l'impression que là, il rentre dans ce système-là. Voilà, on sent qu'il fait un film avant tout pour lui en même temps. Et puis,
Ouais, mais c'est le cas. Après, justement, ça peut toucher quand on aime les références
Oui, mais moi
qu'il
j'aime
cite,
ces
quoi.
références-là, mais voilà, j'étais comme un gamin quand j'ai vu Les Gros Monstres, etc. Ouais, c'était génial. Mais voilà, je trouvais
Il
ça.
n'y a pas beaucoup de films dans lesquels il y a un fulgurant quand même, hein,
Non,
pour le coup.
c'est clair. Et voilà, bah, voilà, j'étais tout content, quoi. Mais voilà, c'est un peu idiot, quoi. Voilà. C'est dommage.
Et bah c'est bien, au niveau de la transition, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a un autre film qui, alors, qui se voulait référentiel, hein, qui est The Wolverine de James Mangold. Et pour le coup, alors, donc, on est les seuls à l'avoir vu, hein, je crois, Jérémy. Et James Mangold avait fait une, je me souviens qu'il avait fait une liste de films dont il, enfin qu'il l'aurait
Inspiré.
inspiré pour The Wolverine, dans lequel on trouvait notamment les 7 samouraïs, on trouvait même Ozu. En gros, il y avait tous les cinéastes
C'est ça,
importants
c'est ça.
japonais. Et alors moi, pour le coup, au final, je n'ai absolument rien trouvé de ces références dans le film,
Moi non plus.
notamment au niveau de la mise en scène. Donc The Wolverine, je crois qu'il est bon, il doit plus être en salle, mais on va en parler parce que justement ça se passe au Japon. Globalement, l'histoire c'est Wolverine qui est toujours traumatisé d'avoir tué Jean Grey, qui va pas très bien dans son Canada natal, et on lui offre un billet pour pour le Japon. On sait pas trop pourquoi il y va pour rendre visite à un vieil ami. Apparemment, ça serait tiré de la mini-série de Chris Claremont et de Frank Miller, I Am Wolverine de 82. Mais vraiment de très très loin, on va dire. Enfin, je suis pas sûr que James
Ça y
Mangold
est, ça y
l'ait
est.
lu, voilà,
Le geek
pour
is
le
back.
coup. Donc est-ce que t'as bien aimé, Jérémy? Ouais, c'était.
Bah, en fait, je m'attendais au pire, parce qu'en plus, on en avait parlé avant,
Ouais.
et j'avais vu ta déception, et voilà, je me suis dit putain, merde quand même. Et finalement, bah, je trouvais que bah, Mangold, il fait du Mangold, quoi. Il a pas de style, il a rien. C'est impersonnel, mais il le fait bien, quoi. Il avait fait sur Night and Day
Donc, il fait
juste
un truc
avant.
nul, bien.
Non,
Enfin,
non.
c'est ça.
Il avait fait sur Night and Day juste avant, c'est un truc complètement, mais ça pourrait être fait par n'importe qui. Quand tu le regardes, tu dis bon bah c'est James Mangold, bon ok,
C'est efficace
mais
quand
c'est
même.
efficace, c'est
Ouais. Ah si, j'ai bien aimé
ah,
Night and
pour
Day.
moi,
Je suis pas d'accord avec Eric
c'est
quand
ses pires films. Enfin voilà,
même.
en tout
Non,
cas,
non, je suis pas d'accord. Non, non, non.
Identity,
Ouais,
Walk
non.
the Line,
Mais
Copland, il y a
voilà,
des
mais
trucs intéressants.
t'arrives pas à retirer quelque chose de la filmographie de ce mec-là. Il avait commencé avec Copland qui était super bien fait, super impressionnant, rien que par le casting. Et ensuite, le mec, c'est devenu une sorte de yes man qui fait à peu près, qui touche à tout. Mais sur The Wolverine, il fait quelque
Mal,
chose.
hein. Parce que enfin, c'est aussi la définition d'un cinéaste classique, finalement, qui peut,
Ouais.
voilà, les cinéastes des années 40, 50, pouvaient faire, et notamment les grands cinéastes américains, pouvaient faire des films dans
Ouais, mais
n'importe
là, il
quel
a
genre,
commencé dans
des
les années
films de
80.
studio.
Là, il a commencé dans les années 90. Et voilà, c'est la génération actuelle. Il se retrouve là un peu à faire n'importe quoi, n'importe quel film qu'on lui propose. Mais The Wolverine, je trouve il s'en sort bien parce que ça coule, parce qu'on s'ennuie pas. Et que oui, tu t'es fait chier, mais moi honnêtement, je me suis pas ennuyé. Il y a des séquences super réussies, notamment la scène introductive qui est vraiment efficace. Quelques scènes d'action par-ci par-là, assez belles visuellement. Bon, le scénario, il est un peu concon, c'est vrai, il y a des grosses incohérences. Il y a des grosses incohérences, mais après, moi, il a rempli son office. Je reconnais que c'est un film moyen, mais en l'état, je trouve que par rapport au premier que tu avais aimé d'ailleurs,
Moi, j'ai préféré le premier. Hein.
voilà. Et
Ah,
moi,
je suis un
j'avais.
des seuls, mais
Ouais,
pour le coup, je
voilà.
me suis plus amusé dans le premier qu'une grosse compilation
C'est ça.
de, enfin voilà, de moments connus de la bande dessinée, qui au final, enfin c'est un petit peu n'importe quoi, et ça se contente de passer très superficiellement sur plusieurs décennies. Mais on a l'impression de feuilleter un gros best-of, hein, un petit peu bourrin et mal fait. Là, il prend une seule histoire. Enfin, justement, il y a ce problème, il n'y a aucun style dans le film,
C'est ça, ouais.
ce qui
Je
fait
suis
que
d'accord
c'est
avec
d'une
toi.
platitude
Je suis d'accord avec
complète.
toi.
Bon, un truc qui m'a super déçu, c'est la vision du Japon dans la bande dessinée. Wolverine, qui est quand même ce gros bourrin, buveur de bière, a une relation très particulière au Japon. En gros, c'est sa seconde patrie après le Canada. Connaît très bien les codes japonais, est presque un samouraï, est très respecté là-bas. Et ça donne une dimension supplémentaire au personnage. Là, on arrive dans le film, on se dit, la scène de post-générique du premier Wolverine se passe au Japon. Donc après, une fois qu'il a plus sa mémoire, il est censé connaître un petit peu le Japon. Il y a une scène de flashback qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où il est au Japon. Il devrait un petit peu connaître le Japon. Il arrive au Japon, c'est vraiment le gros beauf américain qui sait pas utiliser les baguettes, qui fait des blagues pourries sur le nom des gens, qui arrive dans un love hotel, qui fait 3-4 blagues là-dessus. Et donc vraiment, enfin, cette dimension-là, je trouve que c'est vraiment à l'image de tout le film. Enfin, c'est un film purement touristique sur la vision du Japon et qui est unilatéral, en fait. Il n'y a qu'une seule facette du personnage de Wolverine. C'est le gars qui arrive et qui défonce tout le monde voilà, enfin,
Mais parce
avec
qu'en
ses
fait,
griffes, quoi.
mais je pense que Jackman, il peut pas faire autre chose de ce personnage-là. Il est vraiment enfermé Il est vraiment enfermé dans ce perceau du gros lourd un peu rustre. Et voilà, il peut pas faire autre chose de Wolverine, je trouve, Hugh Jackman. Il est un peu enfermé dans son truc. Et la vision du Japon, elle est assez coconne. Voilà, c'est superficiel. On se met, voilà, c'est pour nous mettre vraiment à, voilà, c'est pour s'identifier au personnage. Nous, on est en territoire inconnu comme le perso, etc.
Ah,
Bon,
ça, j'ai
ok.
pas l'impression que ça soit Jackman qui arrive pas à jouer autre chose. Enfin, c'est juste, ok, c'est un film pour Américain.
C'est
Le
ça.
point d'entrée, il faut que le personnage ne connaisse rien à la culture japonaise et que ça soit accès à un côté exotique, quoi.
Voilà.
Si déjà il connaissait tous les codes, comme c'est le cas d'ailleurs dans la bande dessinée de Miller et Claremont, enfin, notamment Miller connaissait un peu mieux le Japon apparemment que James Mangold. Enfin, il n'y aurait pas d'identification possible du spectateur avec ce personnage et la
Après,
découverte du pays,
c'est
quoi.
une vision exotique, c'est une vision, voilà. Après, on critiquait, je me souviens d'un film comme Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, où on critiquait cet aspect-là, mais je trouve qu'il est beaucoup plus respectueux et réussi dans Le Dernier Samouraï que dans The Wolverine, qui est limite irrespectueux des fois, et limite, voilà, limite con, quoi, voilà, quoi. Encore comme on revient à la connerie, et c'est un peu dommage, voilà.
Et j'espère juste que les Shinkansen sont un peu plus solides
Oui.
que dans le film,
Ah, je te confirme,
parce
ils sont
que...
très aéodynamiques et c'est du béton armé comparé au TGV français.
Bah, la scène du train est quand même assez
Nul.
excitante, quoi. Non, non, c'est assez excitant, c'est complètement over the top,
Je sais
mais...
pas, j'ai l'impression que les personnages sont incrustés sur le train. Enfin, j'y crois pas du tout. En plus, ils démolissent le train. Bon, c'est de l'aventure, mais en même temps, c'est normal que ça démolisse le train. Mais le train s'arrête pas. Enfin, pour le coup, il y a personne qui remarque rien. T'as
Il faut pas qu'ils soient en
la toiture qui est
retard.
arrachée. On continue, quoi. Il y a pas de souci.
L'horaire, c'est important, donc ils tracent, quoi.
Ça, c'est bien
Mais c'est vrai
japonais,
que
ça.
le coup du jeu saute et hop, je me
Ouais,
rattrape
enfin.
sur le train, un train qui va à je sais pas combien de kilomètres heure. Et
Tu casses tes
non,
griffes avec
justement,
ça.
j'ai trouvé ça over the top et j'ai trouvé la séquence super excitante, quoi, parce que tu te dis, putain, il l'a fait, quoi, c'est assez drôle, quoi. Voilà. C'est drôle. T'es pas drôle,
Ridicule, c'est
toi.
ridicule, voilà. Comme, mais un peu comme tout le film, quoi. J'ai pas compris, même l'intérêt Wolverine perd ses pouvoirs au début. Pour le coup, tu te dis, ça peut être enfin voilà, un chemin vers la souffrance. Il va être plus vulnérable et donc il va apprendre à se battre autrement.
Non, ça n'amène rien du
Pas
tout.
du tout.
Non,
Il
non.
se prend deux trois coups, il se prend une balle, il se coupe en se rasant, il dit ah, ça fait mal. Et puis il récupère ses pouvoirs et puis il va battre
Et
les méchants.
la scène à
Voilà.
cœur ouvert est assez, assez belle aussi dans la symbolique.
Ah non. Enfin déjà, enfin pour le coup. Il y a justement, enfin bon, il y a la chose qui annihile ses pouvoirs, c'est un espèce de truc qui est sur le cœur que lui a mis Viper. On a vu dans X-Men 1 au niveau de la cohérence, et de toute façon dans la bande dessinée, la mutation est une mutation de l'ADN. Comment est-ce qu'un truc qui pompe le cœur pourrait enlever son pouvoir mutant qui est un pouvoir auto-guérisseur?
Voilà.
Bon,
Ou alors
passons. Après, il s'ouvre le cœur pour s'enlever le truc dans une scène qui ressemble un peu à celle de Prometheus, si vous l'avez vu. Mais avec beaucoup moins enfin,
c'est
d'impact
moins
émotionnel.
viscéral, quoi.
Parce que même James Mangold dit, bah, de toute façon, il peut pas mourir, donc il faut dynamiser la scène avec autre chose. Et à côté, il
Il y a le
fait un
combat.
montage parallèle avec un combat de deux personnages secondaires qui sert absolument à rien. Donc on voit même pas la scène où il s'ouvre le cœur et où il récupère le truc, puisque c'est monté avec une scène de combat qui était assez mal filmée et qui est absolument inintéressant.
Mais dans la
Donc au niveau
symbolique,
de l'intensité.
j'ai trouvé ça beau, quoi. Il s'ouvre, il saute les souffrances du cœur et il balance son truc et il redevient le grand Wolverine. Bon. C'est naïf, mais c'était sympa, quoi.
Ok, bon bah, est-ce qu'on vous a donné envie de le voir ou pas après cette
Pas du tout,
discussion?
ça me donne pas envie.
Yannick?
Mais bon.
Ah non, pas vraiment,
Mais tu vas aimer Ninik, c'est sûr.
Et le troisième film, donc, qui là peut être un film philippin, même si c'est réalisé par Sean Ellis qui avait fait Cashback et qui est un cinéaste britannique, il me
Très bonne
semble.
surprise. Oui.
Une très bonne surprise. Donc, il est parti aux Philippines pour tourner Metro Manila. L'histoire, c'est une histoire assez classique d'un couple de paysans qui, en gros, tentent d'aller dans une grande ville pour survivre, parce qu'ils n'arrivent plus à survivre dans la campagne où ils sont. Et dans la grande ville, ça va être trahison, misère et corruption. Ça va être voilà, une série de décadences. Elle est obligée de travailler dans un bar à hôtesse, ce qui est assez humiliant pour elle. Lui, il va devenir convoyeur de fonds. Et bah Julien, quoi t'as trouvé que le film dépassait ce pitch qu'on a vu à peu près 10 000 fois quoi au cinéma?
Ah, bah d'une part, dans le fond, je pense que c'est le film reflète, c'est comme un miroir de la situation aux Philippines. Alors, ce que tu en vois, comme tu disais, la misère, tous les travaux difficiles qu'ils doivent engendrer. Mais il y a une certaine ambiance, surtout dans les 45 premières minutes quand ils vont dans la ville. Et déjà c'est soutenu par la très bonne bande originale de comment il s'appelle? Robin Foster, qui est vraiment magnifique comme soundtrack, que j'écoute en boucle maintenant depuis 2-3 jours, je l'ai vu. Et pendant ces 45 premières minutes, bah on a toute cette ambiance, on se met dans la peau du personnage, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais il arrive dans Manille et bon, ils vont croire qu'ils vont trouver du travail facilement. Alors, ils arrivent pour trouver un logement. Ils sont déjà à voir par quelqu'un qui les met dans un logement finalement qui est déjà réquisitionné par le gouvernement. Donc toutes leurs économies passent. Donc là, je fais un petit peu de spoiler, hein, désolé. Mais...
Ah, c'est le tout en même
Ouais.
temps, c'est vraiment le tout début du film. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est la partie qui est vraiment la plus intéressante, qui est
Ouais.
quasiment documentaire, et en même temps qui est ultra tendue,
Tout à fait,
parce
ouais.
que ils se font avoir plusieurs fois, on se demande comment ils vont survivre, ils ont une gamine qu'en plus a mal aux dents, enfin
Un docu-tueur super
finalement non mais
réaliste.
enfin on sait même pas comment elle va se soigner, ils se retrouvent dans des taudis immondes, et il y a vraiment une vision de la ville qui est enfin bon, c'est pas super original, mais c'est présenté comme une vision vraiment infernale et
Voilà.
de décadence. Ça va un peu mieux. La deuxième partie.
C'est le scénario, disons, qui va prendre le pas sur le fond. Et je voudrais juste rajouter un élément par rapport au début, mais quand ils sont à la campagne, qui est presque la première séquence d'introduction, quand ils vont donner leur paqueterie, en fait, vont vendre leur paqueterie, et qu'en fait, finalement, on voit qu'il y a la mafia manillaise, derrière, enfin, la mafia philippine derrière, qui finalement baisse les prix 5 fois par rapport à l'année précédente. Et c'est pour ça qu'ils vont aller en ville. Donc on voit que finalement, le mal se trouve au cœur de Mamie, mais aussi il s'est diffusé, entre guillemets, disons, dans les campagnes, ce qui fait que finalement, c'est comme un cercle vicieux.
Ouais, c'est une extension,
Voilà,
et
complètement.
finalement, en pensant y échapper, ils vont se retrouver au cœur de ce qu'ils essayent d'échapper, quoi.
Voilà, tout à fait,
Et, mais par contre, la deuxième partie, on va dire, ça va un peu plus vers du Training Day,
ouais. Voilà, ouais.
version philippine,
Beaucoup plus dynamique.
et c'est un peu moins intéressant. Moi, ça m'a même fait penser à du Danny Boyle sur la fin. Voilà, pour
Ah,
le
oh,
coup, avec
ouais.
y a beaucoup d'effets,
Aïe, aïe, aïe.
voilà, y a un twist, mais vraiment, ça vaut le coup pour la première heure, qui est vraiment super intéressante.
Moi, j'ai bien aimé la
La
deuxième.
deuxième heure est plaisante, mais un peu décevante par rapport. Une fois qu'on a compris la direction que ça prenait vraiment, voilà, c'est un peu moins bien, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Disons que la deuxième partie corrobore la première, en y incluant, disons, un scénario quand même qui est assez bien ficelé. Le twist, bon, et quand on en a vu un bon paquet comme ça, est prévisible, en partie, en disant, sur 2 niveaux. Mais bon, après, c'est vrai que je te rejoins dans la deuxième partie, c'est un peu moins bien.
Et je crois que c'est un beau succès en plus, enfin, il marche plutôt bien, il est resté assez longtemps à
Oui, il est
l'affiche.
encore, ça fait un
Là
bon
il est
mois qu'il est
encore,
sorti,
donc
ouais.
vous pouvez aller le voir. Donc on vous a donné envie d'aller le voir là pour le coup, Jérémy.
Tu as cité Danny Boyle et ça m'a.
C'est vraiment la toute fin
Ok,
sur Danny
sûr.
Boyle, enfin le
On a
côté.
bon espoir, il sortira sans doute en DVD, dans une édition non VOD. Petit clin d'œil à Wellside.
Et Yannick, ton ressenti,
Je
ça
pense que je vais
serait.
plutôt aller voir Wolverine en fait.
Ah, c'est pas
Je le
cool.
savais.
Bah pour le coup, est-ce que vous avez un conseil de film non asiatique qui est sorti sur l'été, votre coup de cœur de l'été, Jérémy?
Ben moi, j'étais en vacances, mais j'ai quand même eu, voilà, j'ai quand même eu le privilège de voir Michael Colas à Cannes, qui m'a fait visuellement une grosse grosse impression. C'est beau comme du Vermeer, voilà. C'est baroque, c'est Mads Mikkelsen, et voilà, il est fabuleux, il est beau comme un dieu. La lumière est magnifique, c'est tragique, c'est lyrique. Donc voilà, allez-y quoi, parce que vraiment, c'est très beau.
Je ne dirai rien donc pour le coup. Si ce n'est que la bande-annonce nous vend quand même Game of Thrones, à peu près, avec un film de guerre, avec des combats, et ça n'a rien à voir avec Game of Thrones. Pour le coup, c'est quand même beaucoup plus contemplatif et beau
C'est une
comme du
sorte
Vermeer,
de
comme tu dis, que du Game of Thrones.
brevard baroque, quoi, voilà.
Julien, t'as un conseil?
Moi, je suis allé quand même pas mal au ciné cet été. Après, j'ai pas de film coup de cœur, entre guillemets. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est un film sur la Corse, sur le milieu corse, qui s'appelle Les Apaches, que j'ai plutôt apprécié. Que je trouvais ça assez réaliste et touchant, surtout par le charisme des personnages. Je trouvais que c'était vraiment efficace de ce point de vue-là. Sinon, j'ai vu Le Jeune et Joli d'Ozon, et là, bon, je suis un plus mitigé, parce que c'est quand même, y a quand même, le sujet est assez sensible et tabou. Mais j'ai trouvé ça quand même meilleur, en tout cas, que son précédent, qui était Dans la maison, je crois, avec Fabrice Luchini,
Ah
que
oui,
là,
c'est
je trouvais
vrai.
ça vraiment,
Je l'ai passé de côté
vraiment, ouais,
directement à celui-là.
voilà, très moyen. Mais je pense que, ouais, Jeune et Joli est quand même le meilleur des trois, je pense. Et sinon, disons, le meilleur scooter qui va arriver, qui sort le 11 septembre prochain, je crois, et qui est vraiment très surprenant en fonction de mon genre, c'est Pain and Gain de Michael Bay. Ou en tout cas, je pourrais. Ce qui est vraiment bizarre, parce que c'est absolument pas mon style.
No pain,
Et,
no gain, non?
en fait, le titre américain c'est Pain and Gain, et en français ils ont mis No Pain, No Gain,
Ah, ça
qui est
simplifie.
complètement, voilà, c'est
C'est
simplifié, mais
super,
bon.
là, je sais pas, la traduction française par quoi? La traduction d'un titre anglais par un autre titre anglais, c'est
Voilà,
super.
n'importe quoi, et bizarre, pourtant je déteste Michael Bay. Et là, je sais pas, au moins la première heure, franchement, j'ai été très agréablement surpris. J'ai presque adoré, je pourrais dire. Même si la deuxième heure, par contre, est beaucoup moins efficace que la première. Mais si je devrais mettre un film sur les trois que j'ai cités, bah, ça serait Pain and Gain, bizarrement.
Mais c'est le film de Michael Bay qui a eu le moins de succès aux États-Unis. Il a fait un vrai four et ça veut peut-être dire quelque chose, quoi. C'est vraiment,
Voilà, il
il paraît
a.
que c'est son meilleur film. Et
Voilà, petit budget, 20
on l'avait
millions.
dit avec The Island déjà, qui était quand même pas terrible, hein,
Mais ouais,
pour le
mais
coup.
The Island a super bien marché.
Ouais.
Et il avait quand même un budget un peu plus conséquent, je crois que c'était genre 50 millions, 60 millions. Alors que celui-là, c'est un
Ouais, c'est
petit
20
budget,
millions. 20 millions,
entre
il a fait
guillemets.
50 millions au box-office. Bon, il
Voilà.
est sorti en avril aux États-Unis, donc bon, il sort un peu en retard en France, malheureusement. Mais j'étais surpris, vraiment surpris par rapport à ce qu'il avait fait précédemment, quoi.
Mais
C'est
encore, on voit
vraiment une
encore
bonne
une fois
surprise.
le, on voit encore une fois le côté assez beauf de Michael Bay qui nous fait quand même une comédie noire sur un fait divers super glauque, quoi.
Ouais,
Et il
carrément.
a pas, on croit qu'on voit qu'il a pas saisi encore le truc, il trouve ça super cool des bodybuilders qui tuent des
Ouais.
gens en faisant des braquages.
Et pourtant, à la fin, il met les vrais prisonniers qui, eux, sont vraiment en prison. Et
D'accord.
c'est vraiment tout le paradoxe entre vraiment la comédie un petit peu loufoque avec, comment s'appellent les acteurs? T'as Mark Wahlberg, qui est maintenant vraiment enfin, hyper bodybuildé par rapport à
Ouais,
avant, et
The
aussi
Rock.
Dwayne Johnson.
Ouais.
Alors là, bon, c'est une grosse masse de muscles de fou, quoi. Et par contre, il est très touchant, Dwayne Johnson, dans son rôle.
Mais il est bon acteur, hein, The Rock.
Ouais.
Moi.
Il était bien dans Southland
Ah
Tales
oui, hein,
d'ailleurs, où
vraiment.
justement il se battait jamais.
C'est ça.
Mais bah, moi je conseillerais Frances Ha s'il joue encore, qui est plutôt voilà, une bonne surprise, qui
Une
avait
bonne
l'air super
surprise.
prétentieux comme film indépendant américain, qui est ultra référentiel sur le cinéma français, enfin, cette cite. Du
Du
Truffaut,
plagiat presque.
du Desplechin, du Léos Carax, bon, sur l'utilisation de Modern Love, et qui finalement est assez touchant et assez rafraîchissant, pas du tout prétentieux. Et l'autre film que je conseillerais, ça serait bah, là aussi un film que je m'attendais pas du tout à aimer, qui est Lone Ranger de Gore Verbinski,
Ah, je m'y attendais
qui
celle-là.
est. Tu l'as vu ou.
Non, non, mais j'ai vu comment tu l'avais noté. Je comprends pourquoi tu l'as apprécié, quoi.
Ouais, et qui est. Alors, qui est ultra pessimiste, qui est un peu la réponse, plus en blockbuster, mais peut-être plus intéressante et plus subtile au film de Tarantino, Django Unchained, sur la question des minorités, notamment des Indiens, qui a pour un Disney une scène hallucinante d'un massacre d'Apaches montré frontalement, donc comme ça, juste pour faire construire une voie ferrée qui traverse leur territoire. Et en plus, il y a une espèce d'humour assez surréaliste qui fait contrepoids et qui est assez intéressant. C'est assez foutraque, ça marche sur pas mal de niveaux. Et
Johnny
pour
Depp
moi,
doit
c'est
avoir
vraiment
un.
le blockbuster de l'été, quoi.
Et le charisme de Johnny Depp, il y est pour beaucoup là-dedans?
Bah,
Ou est-ce
Johnny
que
Depp,
ça doit lui
enfin moi,
coller comme un
de toute façon,
gant?
j'aime beaucoup l'acteur. Et c'est vrai que là, il est excellent.
Ça m'excite bien cette affaire. Hein. Ça fait le
Peut-être le
temps.
rattraper, parce qu'il a, c'est
Ouais.
vrai qu'il a une certaine longueur quand même, il dure 2 heures et demie.
Ouais.
C'est vrai que c'est ce qui m'a un petit peu freiné pour aller le voir au ciné, quoi. Maintenant, on voit de plus en plus de blockbusters qui durent de plus en plus longtemps, alors que pourtant, ils sont pas de mieux en mieux,
C'est ça.
bizarrement, paradoxalement. Donc, on a un peu plus d'hésitation, on se renseigne avant, et bon, c'est vrai quand même, Victor, on commence à avoir les mêmes goûts en général, donc bon. Et peut-être avant qu'il soit diffusé, hein, sur des petits
Puis
écrans,
encore une
aller le voir
fois,
encore
et
sur.
encore une fois, il a fait un four aux États-Unis.
Ouais, bah c'est ce que j'allais
Ouais,
dire
il était
justement.
très
Et
très critiqué.
encore une fois, Gore Verbinski voilà, il a son univers, l'air de
Ah, c'est
rien.
un cinéaste que j'aime
C'est un
plutôt bien,
cinéaste
hein,
que j'aime assez, ouais.
qui fait pas mal de genres,
C'est
qui fait des films
ça.
très différents et
Rango, qui
qui.
était déjà son approche du western, qui était ultra référentielle et qui était très, très drôle, très réussi. Et là, celui-là, même si Johnny Depp a tendance à m'agacer dans son enfermement, Jack Sparrow-like, il est là. Voilà. Bon, on commence un petit peu à en avoir marre de ces films Disney, mais voilà. Ouais, il m'excite bien ce film-là, je sens que.